Silence.
Et voilà l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour Anne, bienvenue.
Bonjour Damien. T'allais dire que c'était l'heure du cinéma, c'est ça que tu voulais dire. Et donc oui, c'est l'heure du cinéma, oui. Et bonjour, oui, ça va, tu vas bien, ça va, tout va bien?
Oui, ça va.
Ouais. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher.
Et oui, on revient vous chercher, voilà. Vous, amis auditeurs, pour aller dans les salles obscures.
Et oui, c'est la musique de la pub. C'est la musique de la publicité dont je vous avais parlé sur le cinéma. Et après, on voit, les cinémas sont ouverts. Hashtag, on ira tous au cinéma. Vous aviez pensé que Damien me faisait une déclaration? Pas du tout. Pas du tout. Il m'a juste trouvé la musique de cette fameuse publicité. Merci, Damien. Je rectifie quand même, parce que ça faisait un peu quand même déclaration, hein, juste après, comme ça. Non, c'est la musique de la publicité, justement, qui est très belle, de Gilbert Bécaud. La chanson. Merci, Damien. On la remettra à la fin, parce qu'elle est trop belle, à la fin de l'émission.
Aujourd'hui, on vient vous parler cinéma, et que nous proposes-tu comme film, Anne?
Eh bien, qu'est-ce que tu voudrais d'abord, toi qui es un petit garçon? Tu pourrais aller voir un film d'animation, si tu veux. Ça s'appelle Scooby, sérieusement. Je commence par un film d'animation. Pour nos petits chéris, je pense que à partir de 6 ans, 6-7 ans, je pense que c'est faisable, hein, parce que ça dure 1h34. Donc, c'est une histoire plus une histoire de temps sur les petits. Quand c'est un peu long, ils décrochent. Hein. Mais 6-7 ans, je pense. C'est Scooby, ça s'appelle Scooby. C'est de l'animation, donc c'est bien. C'est une comédie familiale, hein, c'est américain. C'est réalisé par Tony Cervone. C'est un réalisateur-producteur américain. Il a 53 ans. Il a travaillé que sur des animations, cet homme-là. D'ailleurs, en 2015, il avait sorti Scooby-Doo, Rencontre avec Kiss. Et puis, par exemple, il a fait des Tom et Jerry également. Je crois qu'il y en avait 6, Tom et Jerry, entre 2007 et 2016. Alors, c'est mignon comme tout. C'est Scooby. Scooby, on le connaît. Hein, Scooby-Doo dans Scooby. On découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux détectives en herbe, Fred, Velma et Daphné. Et oui, ils sont trois, hein, les associés, là, les détectives. Alors, ils se sont donc... Ils découvrent. Ils créent, en fait... cette célèbre équipe qu'on connaît, qui s'appelle Mystère et Compagnie. Oh, je pense que tu la connais, toi, Damien, l'équipe Mystère et Compagnie, ça te dit
sûrement,
quelque chose?
Sûrement, oui, parce que j'ai vu des Scooby-Doo à l'époque, mais je ne me rappelle plus trop.
Bah, c'est ça, en fait. Scooby, Sammy, Fred, Velma et Daphné ont créé donc Mystère et Compagnie. C'est... Bon, moi, j'aime bien, hein, j'avoue que... Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu d'innombrables aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable. Un complot destiné à déchaîner les forces du chien fantôme Cerberus. Tandis qu'ils mettent tout en œuvre pour enrayer cet acabocalypse. Attention, hein, c'est acabocalypse, hein. On ne se trompe pas, c'est pas l'apocalypse, c'est acabocalypse. l'apocalypse mondiale, nos amis découvrent que Scooby est porteur d'une lourde hérédité et qu'il est promis à un plus grand destin, que quiconque aurait pu l'imaginer. Ouh, là, c'est du sérieux. Donc, en fait, dans les voix célèbres, quand même, ce sont des acteurs célèbres, américains célèbres. Par exemple, il y a Mark Wahlberg qui a accepté de prendre une voix. Et alors, pour le situer, c'est quand même un très grand acteur et qui est très connu et qui est très célèbre. On l'a vu dans Transformers. Dans les Transformers, hein, c'est lui, Traca Boston en 2016 également, Deepwater en 2016 qui a fait une sortie assez impressionnante. Et surtout, on le connaît aussi pour Ted 1 et Ted 2. C'était en 2012 et 2015. C'est l'histoire d'un ours en peluche vivant, en fait. Et lui, il est son ami, il le connaît depuis qu'il est tout petit et adulte, il le retrouve et ils sont très amis tous les deux. Et l'ours est très coquin, très aventurier, très sympathique, Ted. Ben, c'est lui, c'est Mark Wahlberg. Donc, qu'il ait accepté là d'être dans ce film, c'est quand même pas mal, quoi. Parce que c'est quand même une superstar, hein, ce gars-là. Et puis c'est surtout lui, voilà, je voulais quand même parler de lui, parce que c'est très rare hein, quand même que les superstars se lancent dans cette sorte de doublage d'animation, là, ça arrive très rarement quand même. Là, en fait, ce sont les studios Hanna-Barbera qui ont créé Scooby-Doo, et ça date de 1969, c'est pas d'hier quand même. Hein. Alors, il y a eu 13 séries quand même. C'est quand même. Alors en 2002, il y avait Freddy Prinze Jr. et Sarah Michelle Gellar aussi, qui avaient pris des personnages, qui sont quand même des acteurs assez connus aussi. Alors on a dans ce film un grand acteur de doublage qui s'appelle Frank Welker, qui double Scooby-Doo justement. Ça fait quand même 20 ans. Qui double ce personnage. C'est quand même assez extraordinaire, ça. Si ce n'est pas de l'attachement à un personnage. Hein. Alors, le projet Scooby, le film dont on parle, a émergé en 2014, lorsque la Warner, annonce que cet atelier-là a un rebond de la franchise Scooby-Doo. Voilà. Donc, ils se sont dit, bon, ben, puisqu'il y a un rebond comme ça, on va créer un nouveau film et on va enlever le doux. Et ça s'appelle Scooby, on a enlevé le doux. Et c'est Tony Cervone qui est choisi pour la mise en scène. En fait. Il faut savoir aussi, ça c'est assez étonnant, moi j'étais un peu étonnée, il y a un tas de réalisateurs qui auraient voulu réaliser ce film. On ne peut pas imaginer ça quand même. Ouais. Et c'est Tony Cervone qui a gagné. Moi, ça m'a un peu étonnée, ça. J'étais surprise un peu, quand même. Bon, bah, c'est lui qui a gagné, tant mieux. Hein. Et la célèbre chanson de la saga, en fait, qui commence par cette question. Scooby-Doo, où es-tu a été conçue par le groupe de rock Indie Best Coast. Je parie que tu connais, toi, Damien, ça. Le groupe de rock.
Non, pas du tout.
Ça te dit pas ? Indie Best Coast, c'est eux qui ont créé cette musique qui est très célèbre, la chanson de cette saga-là. Et bon, bah, je pensais que tu le connaissais peut-être, en fait. Puis il y a deux morceaux originaux aussi qui ont été écrits pour le film. Il y a Summer Feelings et On Me, voilà, qui clôt l'histoire un peu sur une note positive, en fait. Ah bon, je pensais que tu les connaissais. Bah, on a peut-être des auditeurs qui connaissent ce groupe, des amateurs de rock. Voilà, en tout cas, j'ai dit hein, déjà 1h34, hein. Alors moi, je dirais 6-7 ans, aller avec la famille. Et c'est pour adultes aussi après, quand même. Hein. C'est des histoires... C'est bien fait et c'est pour la famille, quoi. Totalement. C'est pour ça que je l'ai mis de côté.
Et est-ce qu'on écoute la bande-annonce?
Ah oh, merci, oui, Damien. J'allais justement te demander... Oui.
Ça va commencer. T'es prêt?
Prêt.
Popcorn.
Présent.
Nachos.
Au fromage.
Méga soda avec paille géante.
Salut, toi. Il est peut-être temps qu'on fasse un nouveau film.
Bonne idée, Scooby. Mais faut d'abord faire une bande-annonce. Oh, oh, tu peux faire la voix off de la bande-annonce.
D'accord, et je me lance. Dans un monde dévasté par les forces du mal... Découvrez l'extraordinaire récit des origines de la plus grande équipe de héros de toute l'histoire du mystère. Et pas mal.
T'as assuré.
Ce chien errant doit venir avec moi.
C'est pas un chien errant.
Ouais, et comment il s'appelle?
Il s'appelle... Scooby.
Deuxième prénom.
Dooby.
Nom de famille.
Dou.
You said that we would always be. Without you, I feel lost at sea.
Je l'adore. Je l'enlèverai jamais.
Like the wind, we'd be wild.
Oh.
Et s'il te plaît, refais jamais ça.
Moi c'est Fred, voici Vera.
Salut.
Et elle c'est Daphné.
Salut.
Moi c'est Samy, et voici Scooby-Doo.
Salut à tous.
Ah. Des bonbons à ça.
Samy et Scooby ont été enlevés. Est-ce que tu te rends compte où on est?
Non.
Ouvre les yeux, mon vieux. Un style moderne à l'esthétique sobre, un bleu apaisant décliné sur plusieurs tons. Oh, mais...
chez Ikea.
On était projetés dans le futur. T'as dit chez Ikea?
Non, j'ai dit dans le futur. J'ai dit comme toi.
Ceci va peut-être nous conduire à Samy et Scooby. Il y a des traces d'après-rasage et de whisky de 12 ans d'âge.
Oh, alors c'est mon père, le méchant de l'histoire.
Voilà donc la bande-annonce de Scooby.
Elle est pas mal la musique quand même, moi je la trouve assez réussie. Et la voix qu'on a entendue là, c'est la voix de Thomas Reff, qui est un chanteur très très célèbre de country aux États-Unis. C'est lui qu'on a entendu, il a une très belle voix d'ailleurs. Donc c'est quand même un truc sérieux avec des gens qui ont fait le travail d'une façon très professionnelle. C'est quand même pas mal ça. Alors, ensuite, on a une. J'ai mis de côté un drame britannique que je trouve. C'est vraiment un film que je trouve très, très beau. Ça s'appelle L'Envolée. Et c'est un film d'Eva Riley. C'est une réalisatrice scénariste britannique. Elle est écossaise, exactement d'ailleurs, Eva Riley. Et en fait, ce que disent certains cinéphiles, c'est qu'elle s'inscrit dans la lignée d'un Ken Loach. Ken Loach, c'est le réalisateur qui fait du social, hein, qui fait des films quand même, qui parlent des problèmes sociaux. Et donc, mais sa vision quand même, Ken Loach, lui, il est assez pessimiste quand même, hein. Ses films sont quand même assez, les fins ne sont jamais bien joyeuses. Alors qu'elle, quand même, elle a une vision moins pessimiste et plus lumineuse. Et ce qui fait qu'elle nous touche immédiatement, grâce à cette lumière qu'on perçoit dans ses films. Et en fait, la vision du social, c'est une étude. Elle a une étude de cette vision qui est beaucoup moins sombre et qui est portée surtout par l'espoir et l'énergie. Ça, c'est quand même assez important. Donc, je conseillerais quand on n'a pas le moral, plutôt un Eva Riley qu'un Ken Loach, bien que les deux soient formidables. Mais bon, tout dépend du moral qu'on a à ce moment-là. Alors, pour L'Envolée, en plus, c'est une. En fait, elle s'est inspirée. Et elle a surtout, elle s'est inspirée d'une histoire vraie, et elle s'est inspirée, elle a surtout voulu des jeunes acteurs. Les deux rôles principaux sont deux jeunes acteurs non professionnels. Pour elle, les non professionnels laissent percer un réel talent. Ils sont simples, vrais et rafraîchissants. Voilà ce qu'elle, c'était important pour elle. Hein. Elle a absolument voulu que les deux rôles principaux, qui sont d'ailleurs Frankie Box et Alfie Digan, les deux jeunes qui sont assez extraordinaires d'ailleurs, qui sont non professionnels. Après, on a Charlene White, on a William H. William H. est un acteur très connu là-bas, réalisateur, scénariste. Donc, on a ces deux jeunes formidables. Alors, il y en a une, c'est Late. Elle s'appelle Late. Elle a 14 ans. Elle vit dans la banlieue de Brighton. Alors, Brighton, juste pour rappeler, hein, c'est une station balnéaire qui se trouve au bord de la mer, au sud de Londres. D'ailleurs, pour aller de Brighton à Londres, il y a une heure de train, pour dire que c'est vraiment très près, quoi. Et elle vit donc avec un père souvent absent. C'est une gymnaste douée qui s'entraîne intensément pour sa première compétition. Lorsqu'un demi-frère plus âgé apparaît une nuit sur le seuil de sa porte, son existence solitaire vacille. La méfiance fait place à des sensations inconnues et grisantes. Leite s'ouvre à un monde nouveau. Frankie Box, la Leite, elle est assez sensationnelle. Hein. Son casting est réussi. Voilà, le casting d'Eva Riley est réussi. Et bon, elle a bien fait. De toute façon, elle a mis du temps à les trouver. Hein. Ça ne s'est pas fait comme ça. En fait, elle a fait énormément de courts-métrages et de documentaires. Elle est connue pour ça, justement, là-bas, en Angleterre. Et ça, c'est son premier long-métrage. Donc, elle voulait faire un film qui puise dans l'énergie de la jeunesse. Et elle a choisi la thématique de la gymnastique. Voilà. Parce qu'elle trouve qu'il y a un mélange de prouesses techniques et d'expressions artistiques. Ça l'intéressait. Elle nous dit d'ailleurs qu'elle s'est mise à regarder des chorégraphies au sol, encore et encore fascinée par le contraste entre celles qui fonctionnaient et celles qui ne fonctionnaient pas. Elle a cherché à comprendre, en fait, plus en profondeur, la confiance intérieure dont une gymnaste a besoin pour faire chanter sa chorégraphie avec émotion et expression. Elle a donc visité un tas de gymnastes, des clubs de gymnastique, un tas de clubs gymnastiques, je voulais dire. Elle a vu un tas de gymnastes, voilà, je refais la phrase. Et elle a assisté à beaucoup de compétitions. Elle a discuté aussi avec des jeunes gymnastes énormément pour construire son film. Donc elle est quand même... on sent que son film est fouillé, quoi, qu'elle sait de quoi elle parle. Et elle voulait, en fait, pour les deux personnages principaux, donc, dont je parlais, Leite et Joey, elle voulait trouver deux adolescents non professionnels. Elle a travaillé avec des acteurs débutants, beaucoup dans ses courts-métrages. Hein, elle était habituée. Et elle a compris qu'à travers ses expériences antérieures, que beaucoup de gens sont instinctivement et naturellement des acteurs, même s'ils n'ont aucune expérience. Ah oui, mais ça, c'est certain. Je suis même persuadée, moi, qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront jamais fait de cinéma de leur vie et qui avaient probablement un grand talent, mais qui ne l'ont jamais su et qui ne l'ont jamais développé. Ça, c'est... Moi, j'ai toujours été persuadée de ça. Et, ou de théâtre, hein, de cinéma ou de théâtre. Et je pense que là, je crois qu'elle a bien fait parce qu'elle est tombée quand même sur deux personnages. Ils sont formidables, quoi. Dès qu'on les voit, on regarde et dès qu'on les voit, on les trouve formidables. Elle s'est pas trompée quand même. Hein. Bon, elle sait ce qu'elle fait, hein, Eva Riley. C'est pas vraiment une débutante. C'est juste son premier long métrage, mais elle a déjà beaucoup travaillé. Donc elle savait ce qu'elle faisait. Voilà. Ça dure 1h23. C'est vraiment très très beau, intéressant. Elle a que 34 ans. Je pense qu'elle va pouvoir en faire beaucoup d'autres, des jolis films. Et puis ensuite, si personne ne connaît le titre du film dont je vais parler, c'est qu'il n'a ni la radio, ni la télévision, ni rien, quoi, en fait. Il vit dans un igloo au pôle Nord. Ça s'appelle Tout simplement Noir. Et on en entend parler à la radio, à la télévision, partout. Enfin, c'est un peu beaucoup quand même. Hein. Il est passé à peu près sur toutes les chaînes, sur tous les. Le titre, rien que le titre, je me disais, mais c'est quoi ? Il me tardait de voir ce que c'était. Tout simplement Noir, c'est une comédie française de Jean-Pascal Zadi, qui est un réalisateur, scénariste, acteur, il est auteur, il est français, il a 39 ans, il co-réalise avec John Wax, qui est un photographe de plateau, un collaborateur artistique, et il collabore également au scénario John Wax. Donc, Alors, c'est l'histoire de JP. C'est un acteur raté de 40 ans qui décide d'organiser la plus grosse marche de contestation noire en France. Mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu'il reçoit de Farid le font osciller entre envie d'être sur le devant de la scène et véritable engagement militant. Oui, Farid, on le connaît, Farid. Farid, c'est un humoriste, hein, humoriste français, C'est Farry Lopez, d'ailleurs, son vrai nom. Enfin, je ne sais pas, tu le connais, toi, ça te dit quelque chose,
oui,
Farry?
Oui, tout à fait.
Oui. Voilà, donc le soutien intéressé qu'il reçoit de Farry, la phrase est assez intéressante. Donc, dans ce film, on a donc Jean-Pascal Zadi, ben, c'est JF. Hein. Il est rappeur également, hein, Jean-Pascal Zadi. C'est un acteur, réalisateur et rappeur. On a Caroline Anglade, qui est une actrice qui est tout à fait délicieuse. Très, très bonne actrice. On a Liliane Thuram, le footballeur international, là, qui joue son propre personnage, d'ailleurs. Et dans les rôles principaux, après, il y a un tas de guests dans ce film. Les guests, c'est-à-dire des gens connus qui font des apparitions. Hein, c'est ça, qui acceptent de faire des apparitions. Steffi Selma, qui est une actrice chanteuse. On a Augustin Trapenard. Alors, Augustin Trapenard, ça se rapproche un peu de nous, ça, Damien, puisqu'il est animateur de radio.
Sur France Inter.
Voilà, sur France Inter. À la télévision aussi, il s'occupe du Grand Journal sur Canal+. Il est journaliste culturel et critique littéraire. Donc, on l'aperçoit aussi. Il est sympa, d'ailleurs, ce gars-là, effectivement. On a Joe Star. Bon, on a Vikash Dorazou. C'est un footballeur français. Dorazou, pardon. Oh, mon Dieu. C'est un footballeur français. Il est consultant. Hein. Donc, on le voit. Il y a Amel Chabi aussi, qui est une comédienne réalisatrice, qui est l'épouse, d'ailleurs, de Fabrice Eboué, qui apparaît également dans le film, qui, lui, est un réalisateur également et un humoriste. On a Ramzi Bedia. Ben, on le connaît quand même. Hein. On a Mela Bedia, qui est la sœur de Ramzi Bedia, qu'on l'a découverte il n'y a pas longtemps. On a parlé d'elle, d'ailleurs, hein, il n'y a pas très longtemps. Ils sont frères et sœurs, tous les deux. On a Jonathan Cohen aussi, qui est un réalisateur comédien. Mathieu Kassovitz, qui apparaît dans le film. Claudia Tagbo aussi. Elle a un rôle assez marrant, d'ailleurs, dans le film. Claudia Tagbo. Un peu méchante. Comédienne humoriste franco-ivoirienne. On a Soprano, le rappeur Soprano. On a Cyril Hanouna, l'animateur de TV et de radio. Rachid Djedani aussi, qui est un écrivain, réalisateur, scénariste et comédien. On a Lucien Jean-Baptiste. Oh, bah, Lucien Jean-Baptiste, on le connaît. Acteur, réalisateur. Bah oui, on a. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a Moussa Manzali. C'est un rappeur, Moussa Manzali. Je ne sais pas si tu le connais, Damien. Éric Judor, bah, qu'on connaît évidemment, l'humoriste, acteur, réalisateur. On a Éric Ebouanet, qui est un acteur franco-camerounais. On a Ahmed Silla, on le connaît, hein, humoriste, acteur. Fadili Camara, qui est une humoriste actrice. Et Karen Giok aussi. Alors Karen Giok, elle, c'est l'épouse de Liliane Thuram, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui apparaît dans le film. Voilà, elle est journaliste, elle, hein, de radio et de télévision. Voilà, tous ces gens qui apparaissent dans le film, c'est quand même... Il a réussi à déplacer tout le monde. Alors, Tout Simplement Noir, c'est quoi? C'est une référence au groupe de hip-hop du même nom de la fin des années 80. Je ne savais pas qu'il y avait un groupe de hip-hop qui s'appelait comme ça, moi. Je ne connais pas du tout. Pour les réalisateurs, il s'agit aussi de rappeler que l'on peut employer le mot noir que les gens n'osent plus prononcer dans le langage courant. Ils trouvent plus chic de dire black. Pour nous, il n'y a aucune honte à dire noir, nous disent-ils. C'est juste une couleur. Eh oui, toi t'es blanc, toi t'es noir, toi t'es ceci, cela. Ben oui, oui, c'est juste une couleur. On est d'accord. Et pour Jean-Pascal Zadi, ce film est né, dit-il, de l'envie de faire une œuvre collégiale, drôle et porteuse d'un message. On voulait fédérer un maximum de personnalités noires autour de ce projet et avoir le plaisir de les voir s'éclater à l'écran. Et tous les deux, là, Jean-Pascal Zadi et John Wax, en fait, ils se sont rencontrés il y a déjà plus de 10 ans, bien avant de co-réaliser Tout Simplement Noir, voilà, grâce à un ami commun. Et ensemble, ils ont déjà tourné dans le Crocodile. Le Crocodile, en fait, le titre, c'est Le Crocodile du Boots Wanga, où Zadi jouait un petit rôle. Il y avait Fabrice Eboué, je crois, hein, dans le Crocodile, ouais, il y avait Fabrice. Et Tout Simplement Noir est né de leur envie de collaborer sur un projet qui leur ressemble. Voilà. Donc, Zadi a travaillé le scénario avec Fabrice Eboué et puis avec Kamel Gemra pour donner une structure plus narrative au film. Bon, ben voilà, je crois que c'est un film assez sympathique. Et si on a envie de se détendre. Et puis, tu as peut-être une bande-annonce. Oui, merci, Damien.
Je suis noir, grand. Voilà. Je suis noir.
Martin Luther King.
Je suis nègre.
Malcolm X.
Je suis un putain de nègre.
C'est ça.
François Soudé, il faut qu'on soit là.
Ta marche, c'est une initiative de dingue.
Quelle marche?
Les blancs sont interdits à ta marche.
Ils sont pas interdits,
pas interdits, mais c'est pas conseillé.
Ils sont pas conseillés, ils vont se frapper.
Ouais. Non, ils sont
ils vont pas
du
frapper,
tout.
Nous, mais il y aura pas une bonne ambiance.
Voilà. Je vais faire une marche, moi, de mon côté, avec les Indiens.
Soirée entre nous.
On va niquer votre marche de renault.
C'est hyper excluant.
On a des imams qui soutiennent.
Non, 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 fais pas ça. Tu sais très bien, les imams, c'est pas good vibe.
Quoi?
Oh, là, tu vas loin.
Non, pour le coup, il a pas tort. C'est pas super ambiance. Tiens, j'invite à mon anniversaire 5 imams. On va pas mettre une ambiance de ouf. Non, c'est vrai, en termes d'ambiance.
C'est pas un noir, ça. Je vous demande l'Afrique, vous me ramenez Montreuil.
C'est dans ce que tu fais avec tes fesses, tes grosses fesses, c'est un peu cliché, non?
Ferme ta bouche là, avec tes dents qui sortent là, t'as même pas les rentrer.
Travaille, mets un peu de conscience, mets un peu de fond, mets un peu de maturité, c'est tout.
Ah, ça va. C'est pas le rappeur préféré des collégiens qui va me donner des leçons de rap.
Tu fais des films de vendus, des films de bounty, voilà.
Qui c'est dit là? T'as tort ou t'es pas peur?
Enlève ta main! Enlève ta main! Enlève ta main!
T'es sérieux?
Enlève ta main!
J'ai dit une connerie?
Voilà donc la bande-annonce de Tout Simplement Noir.
Ça déménage quand même. Hein. En fait, c'est un faux documentaire, hein, finalement, qui s'amuse à brouiller les pistes entre fiction et réalité. Ah, c'est ça. Hein. En tout cas, Jean-Pascal Zadi, là, il est très content. Enfin, il remercie les guests parce qu'il leur dit qu'effectivement, il trouve qu'ils ont fait une preuve de grande intelligence et il rend hommage à leur capacité d'autodérision. Parce qu'ils se moquent un peu aussi d'eux-mêmes, hein, les personnages qui vont apparaître les uns après les autres. Là. C'est assez... voilà, quoi. Ce qu'ils voulaient, en fait, les deux co-réalisateurs, là, ils voulaient éviter de faire un film à sketch. Et oui, ça pouvait facilement tomber dans le sketch, effectivement. Donc, c'est au moment du montage, ils se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs scènes entre lesquelles il manquait du liant. Alors, il leur a fallu retourner d'autres scènes. Ils ont retravaillé, quoi. Ils ont supprimé à l'écriture et lors du tournage des scènes trop gaguestes ou trop loufoques. Donc il y a quand même un vrai boulot sur ce film. C'est pour ça que je pense qu'il vaut la peine. Voilà. Et ça dure, je ne l'ai pas dit, 1h30. Pour se détendre, c'est pas mal, je trouve. Bon, je crois que c'est fait assez intelligemment, effectivement. Et puis j'ai un drame historique. Alors attention là, parce que c'est qui est en costume d'ailleurs. Attention, c'est roumain, c'est serbe, c'est suisse, suédois, bosniaque, macédonien. Tout le monde s'y est mis. Ça s'appelle Malmkrog. Alors j'ai pas trouvé ce que c'était que Malmkrog. Hein, sauf que si tu prends les deux, tu détaches les deux mots, il y a minerai et cercle. Alors je vois pas trop le krog, c'est cercle et Malm c'est minerai. Mais il n'y a pas d'explication, en fait, c'est le titre. C'est un film de Kristi Piiu. Alors attention, ce n'est pas facile à dire. P-U-I-U. Comment on prononce ça? Piiu. Pas facile, hein? Kristi Piiu, qui est un réalisateur, scénariste, acteur roumain. Il a 53 ans, il a déjà eu un prix et 12 nominations. Et son film, attention, on reste assis, dure 3h20. Là, ce n'est pas des pop-corns qu'il faut, c'est carrément, un repas. Il faut amener un repas. Donc c'est quand même... Alors c'est l'histoire de Nikolai, qui est un grand propriétaire terrien, un homme du monde, qui met son domaine à la disposition de quelques amis, organisant des séjours dans son spacieux manoir. Pour les invités, parmi lesquels un politicien et un général de l'armée russe, le temps s'écoule entre repas gourmets, jeux de société et d'intenses discussions sur la mort, l'antéchrist, le progrès ou la morale. Tandis que les différents sujets sont abordés, chacun expose sa vision du monde, de l'histoire, de la religion. Les heures passent et les esprits s'échauffent. Les sujets deviennent de plus en plus sérieux et les différences de culture et de point de vue s'affirment de façon de plus en plus évidente. En fait, j'ai mal prononcé parce qu'ils exposent la vision, leur vision du monde, de l'histoire, virgule, et de la religion. Ce n'est pas de l'histoire, de la religion. C'est l'histoire d'un côté et de la religion de l'autre. Voilà, j'avais l'impression que c'était quand même assez intéressant. Bon, 3h20, c'est pas non plus... c'est un peu long, mais c'est sûr que là, on ne peut pas emmener la famille. C'est clair que la jeune famille, veux-je dire. Alors, dans les rôles, on a des acteurs français, des acteurs lituaniens aussi. Alors, on a Agathe Bosch, c'est une actrice française, Frédéric Schulz, Richard d'ailleurs, parce que c'est un acteur français. On a une Diana Sakalauskaitė, qui est une actrice lituanienne. Pas facile à dire tout ça. Hugo Brousseau, qui est un acteur français. Diana Sakalauskaitė, elle joue beaucoup en France, en fait. Elle joue surtout en France, l'actrice lituanienne. Alors, Malcroque, c'est tiré du livre « Trois entretiens sur la guerre, la morale et la religion » du penseur russe Vladimir Solofiev. Alors, c'est pour le réalisateur, le travail d'adaptation a été particulièrement complexe parce qu'il y a le risque de manipulation des faits ou de distorsion des intentions de l'auteur dans le but d'affirmer son propre point de vue. Et ça, c'était quand même assez insurmontable. Alors, d'une part, il faut recréer une époque, nous dit-il, avec son langage, sa tradition et ses coutumes. Et d'autre part, il faut respecter l'esprit des trois conversations et donc les intentions de son auteur. Alors, Vladimir Solofiev, l'auteur des trois entretiens, c'est un écrivain qui est né en 1853, qui est décédé en 1900, à l'âge de 47 ans. C'est un philosophe et poète russe. Alors lui, pour donner une idée de ce qu'il écrit, il a été influencé par Dostoïevski, par Platon, par Nietzsche, par Emmanuel Kant, par Aristote. Voilà, donc ça donne une petite idée quand même. Il parlait grec, latin et français et italien. Cet homme-là. Alors, la citation la plus célèbre de l'auteur de Malcroque, c'est « Les intérêts de la civilisation de notre époque sont ceux qui n'existaient pas hier et n'existeront pas demain. Il est permis de préférer ce qui est valable pour tous les temps. » Je trouvais que la citation était quand même assez intéressante. Trois entretiens, il a écrit ça entre 1899 et 1900. Finalement, peu de temps avant sa mort. Alors, c'est sur la guerre, la morale, la religion, voilà. Et c'est suivi d'un court récit sur l'Antéchrist. C'est ce que je disais pour les discussions de tous ces invités, là. Est-ce qu'on n'avait pas une bande-annonce, quelque chose ? Non, peut-être pas ?
Si, si, on va écouter ça.
Tu avais, Damien ? Merci.
Vous affirmez donc que tuer, c'est-à-dire ôter la vie à autrui, et dans tous les cas, un mal absolu ?
Sans aucun doute.
Mais se faire tuer, est-ce un mal absolu ?
Il faut absolument, n'est-ce pas, absolument poursuivre cette conversation. Vous êtes d'accord, Edouard ?
Pour poursuivre cette conversation ? Moi qui me réjouissais tant de ce qu'elle ait pris fin.
Non, vous inquiétez pas. Je vais aller voir.
C'est quand même.
Ivan!
Malcroque.
Oui. Pour ceux que ça intéresse, mes chéris, là, qui sont intéressés par le livre Trois entretiens. Il existe en librairie. Hein. Il a d'ailleurs été traduit du russe en français en 1916 par Eugène Tavernier. Donc on peut le trouver, il n'y a pas de souci. Je ne détesterais pas lire quelques pages de ce livre, moi, finalement, voir un peu. En tout cas, en attendant, 3h20, Malm Krog, le film, le drame historique à voir. C'est intéressant. Hein, c'est, en tout cas, c'est bien joué. Les costumes sont très, très beaux. Vraiment. Les décors aussi sont très beaux. Alors après, ben, j'ai un thriller, drame sud-coréen. Là, on change de genre. Lucky Strike. Alors, c'est quoi Lucky Strike ? C'est coup de chance. C'est coup de chance. C'est interdit au moins de 12 ans, je le dis tout de suite, comme ça on n'oubliera pas. C'est réalisé par Yong Hoon Kim, qui est un réalisateur scénariste sud-coréen. C'est son premier long métrage. Il a déjà réalisé des courts-métrages, lui aussi. Il a 38 ans. Son Lucky Strike s'est adapté du roman à succès du japonais Keisuke Sone. C'est un film jubilatoire et sombre, pour dire. C'est quoi ? Ben, c'est un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un douanier peu scrupuleux, un prêteur sur gage et une hôtesse de bar qui n'auraient jamais dû se croiser. Mais le sort en a décidé autrement, en plaçant sur leur route un sac rempli de billets qui bouleversera leur destin. Arnaque, trahison et meurtre, tous les coups sont permis pour qui rêve de nouveaux départs. Oui, c'est quand même... ils nous disent, prends avant d'être pris, c'est chacun pour soi, bien mal acquis ne profite jamais, etc., etc. Et on a dans les rôles principaux Jeon Do-yeon, qui est une actrice coréenne. On a Woo Chung-yong et Cheong-woo Bae. Alors bon, les prononciations, je ne sais pas trop, mais je pense que c'est à peu près ça. J'espère. En tout cas, c'est une histoire quand même assez originale. Et il y a des moments drôles, effectivement. Ouais. Jubilatoire, le mot tombe bien, ouais, je crois. Alors donc, le réalisateur, lui, il est connu, Kim Jong-un, pour être quelqu'un qui a le sens du détail. Et il a une direction artistique et qui est très soignée et très sophistiquée. Et il exige de ses acteurs quand même une certaine performance, justement un peu sophistiquée. Il est connu pour ça. Alors là, il nous dit que je voulais montrer un échantillon particulier de la société moderne qui sombre peu à peu et comment tous les maux et afflictions ont dans ce cas tendance à s'assembler. Et oui, c'est ça, quoi. Alors le rythme est assez soutenu quand même, hein, son intrigue... Ça ne traîne pas. Alors, il dépeint dans Lucky Strike comment l'ambition et les bas instincts de 8 personnes ordinaires peuvent s'entremêler. Autrement dit, mes chéris, si vous trouvez un paquet plein de billets, à mon avis, laissez-le. Portez-le quelque part, à la mairie, à la police, où vous voulez, mais ne le gardez pas. Ça se passe très mal, ces histoires de valise plein de billets, là. Oh là là, non, non. Les sacs, c'est un sac, d'ailleurs, là. Un sac rempli de billets. Non, non, c'est pas bon. Ça dure 1h48. Intéressant comme tout. Moi, je trouve. Et puis, j'avais également... un drame grec-polonais. Oui, que j'ai mis de côté. Parce que, en fait, il a été réalisé en 2016, ce film. Et il sort maintenant. C'est un film de Sofia Exarchou, qui est une monteuse, réalisatrice, scénariste grecque. Et le film a 2 nominations au Festival international des films de femmes de Créteil. Il a eu ses nominations, d'ailleurs, en 2017, puisque le film avait été réalisé, je viens de le dire, en 2016. C'était quand même Grand Prix du jury, mention spéciale. C'est quoi ? C'est le village olympique d'Athènes, 10 ans après les Jeux. Des jeunes désœuvrés, des athlètes à la retraite, blessés et des chiens sans maître errent entre les ruines et les arènes sportives à l'abandon. On a déjà une petite idée de ce que ça peut donner. On a Dimitri Kitsos dans les rôles principaux, Dimitra Vlagopoulou, Thomas Bo Larsen, qui est un acteur danois, lui, qui travaille souvent d'ailleurs sur des films grecs, ce monsieur. Alors, le village, effectivement, Sofia Exarchou, elle voulait représenter un groupe d'adolescents vivant dans un lieu abandonné qui ne leur donne aucune échappatoire et aucun espoir pour l'avenir. Elle a donc recherché cet endroit dans les environs d'Athènes. Et c'est à ce moment-là qu'elle a découvert l'histoire du village olympique qui a été construit uniquement pour les besoins des Jeux olympiques, sans aucun aménagement urbain, avec des maisons toutes identiques, entourées d'une clôture. C'est fou. C'est assez... Et alors, elle nous dit, il est complètement isolé, en bordure d'un axe routier, loin de tout véritable quartier. Cet endroit semble abstrait, comme s'il pouvait exister à n'importe quelle époque, n'importe où dans le monde. Mais en même temps, il a une forte signification symbolique pour la Grèce. Les Jeux olympiques de 2004 ont apporté beaucoup d'espoir à l'ensemble du pays, mais ont finalement marqué son effondrement. Maintenant, il existe en tant que No Man's Land. Non pas à cause d'une guerre ou de quelque chose comme ça, mais en tant que No Man's Land créé pour les JO. Et je trouve fascinant d'en parler. Mais c'est même, moi je trouve que c'est un peu terrifiant quand même. Cette histoire d'un village olympique construit juste comme ça, juste pour une saison, puis plus rien. C'est quand même assez... Alors elle voulait que le spectateur en fait ressente le mode de vie de ces jeunes. Donc elle a fait ça pour ça aussi. Pour faire en sorte qu'on le... Enfin, le film est très réaliste, hein, mais enfin, il comporte quand même des moments lyriques. Voilà, c'est important quand même. Hein. C'est pas juste un film très triste, avec des gens terriblement malheureux. Non, il y a quand même des moments de grand lyrisme, d'ailleurs. Voilà, j'ai dit Parc, ça s'appelle.
Parc,
et ça dure 1h40.
Ok, ensuite.
Ce film, c'est mon coup de cœur quand même aussi. Encore que les autres, je les trouve très beaux, hein, ceux que j'ai présentés. Mais celui-là, La forêt de mon père. C'est un drame belge, français et suisse de Véro Katzborn, qui est une réalisatrice, scénariste déjà. Je l'avais déjà fait ce truc-là une fois ou deux dans mon. Scénariste, sénatrice, actrice, elle est belge. Voilà. Elle a déjà eu des nominations quand même, hein, dans son palmarès. Donc c'est l'histoire de Gina qui a 15 ans et qui grandit dans une famille aimante en lisière de forêt. Elle admire son père, Jimmy, imprévisible et fantasque, dont elle est prête d'ailleurs à pardonner tous les excès, jusqu'au jour où la situation devient intenable. Jimmy bascule. Et le fragile équilibre familial est rompu. Dans l'incompréhension et la révolte, Gina s'allie avec un adolescent de son quartier pour sauver son père. Et alors, on a, dans le rôle de Gina, on a Léonie Souchot. Elle est formidable, cette petite Léonie Souchot. Et la maman, c'est Ludivine Sagné. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est une grande actrice, Ludivine Sagné. Et alors, le père est extraordinaire, Alban Lenoir. On le connaît, si on a l'habitude d'aller au cinéma, même si son nom échappe, quand on le voit, on le reconnaît. Et on a Mathis Bourg aussi, dans les rôles principaux. C'est un beau film, c'est un beau casting. Et c'est un petit coup de cœur, ça dure 1h30, on va dire. Bon, on va simplifier un peu quand même. Voilà, c'est une histoire, en fait, avant tout d'amour filial, où il est difficile d'aimer en raison de la folie. Oui, parce que là, en fait, le père, c'est un père qui bascule dans la folie, hein, dans la psychose. C'est ça, quoi. Et elle nous dit que... La réalisatrice nous dit, par cette ligne narrative, j'ai cherché à exprimer l'idée que les troubles psychiques interrogent notre monde, si enclin à tout normaliser et à gommer l'individu. Eh oui. Et en fait, là, elle-même, Véro Katzborn, la réalisatrice, a grandi avec la folie de son père. Elle nous dit que la folie, c'était ma normalité. Alors, elle s'est appuyée sur son vécu. Elle a commencé à écrire dans le cadre de l'atelier scénario de la Fémis. Et puis, il y a eu une première version du scénario. Ça lui a, voilà. Donc, elle a eu l'aide après du CNC pour pouvoir donc terminer son scénario, réaliser son film. Alors, pendant 2 ans, elle a travaillé avec des soignants et des soignés au sein de 3 hôpitaux de jour, de grands établissements psychiatriques. Elle a vraiment fait un sacré boulot, là, quand même, aussi. Hein. Ça, c'est vraiment quoi. Elle nous dit qu'une personne sur 5 peut être touchée par des problèmes psychiques. Pourtant, on parle aux enfants de la mort, du sexe, de maltraitance, des violences, mais on leur parle encore très rarement des maladies psychiques, alors qu'ils sont les premiers témoins de la vie familiale. Eh oui. Elle nous dit que cela vient du regard que la société porte sur ces maladies. Ben, je pense que la plupart des gens ont peur, je pense qu'ils ont peur aussi de ça, ils ont peur un peu de la folie, ça fait peur, je pense, il y a ça aussi. Et du coup, comme ça fait peur, ça devient un peu tabou. Je pense que c'est ça aussi. Mais chérie, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si ce sujet vous intéresse, et le film est vraiment très très bien fait, les acteurs sont au top, vraiment. La forêt de mon père, 1h31. Je ne sais pas si on a le temps d'écouter une petite bande-annonce. Merci, Damien.
Il croit que la forêt est à lui, mais elle est à tout le monde. Tout est à nous.
Ouais.
Laissez les enfants, j'arrive pas à me concentrer.
Pourquoi t'as acheté la télé?
J'en rachèterai une.
Avec quel argent? Qu'est-ce qui s'est fait virer?
Un, ça suffit.
Arrête de compter. Prenez tout ce que vous voulez.
On n'a qu'à tout laisser ici.
Ils ne verront pas. Attendez-moi dehors, les enfants. On va rentrer par la forêt.
Je viens avec nous, s'il vous plaît, monsieur.
Lâchez-le !
C'est grave.
C'est un début d'épisode psychotique. Il a besoin de soins. Vous devez penser à vous. À vos enfants.
Je ne peux pas lui faire ça.
Il sera très bien soigné.
Tu lâches l'enfermé, c'est ça la vérité.
Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est facile pour moi? Gina!
Vous êtes tous tarés ou c'est juste votre père?
Tu crois que je suis un comme papa?
La forêt de mon père.
Très beau film. Et pour finir, j'ai un drame. J'ai un drame israélien-allemand. Ça s'appelle Chained. Ça veut dire enchaîné. De Yaroun Shani, qui est un réalisateur, scénariste, chef, monteur israélien de 41 ans. Il a eu déjà pas mal de prix, des 17 nominations. Il y a une nomination pour le film aussi au Festival international du film policier de Beaune en 2019. Et le prix, c'est 109 quand même. Il a le prix 109, qui est un joli prix. C'est l'histoire d'un flic consciencieux et expérimenté. Rachi est en couple avec Abigail, dont il attend un enfant. Le jour où, à la suite d'une enquête interne de la police de Tel Aviv, Tel Aviv, c'est une ville israélienne, hein, je rappelle un peu, il est accusé de bavure et se trouve brutalement mis à pied. Il réalise que sa femme lui échappe de plus en plus. Saura-t-il réagir avant que son monde ne s'effondre? En fait, c'est l'histoire d'un policier honnête qui met son énergie à défendre la justice dans les rues de Tel Aviv et qui va se retrouver dans une histoire épouvantable. D'autant plus qu'il a en plus sa belle-fille adolescente qui se rebelle de plus en plus, donc ça ne marche pas fort. On a Eran Naïm dans les rôles principaux, Stav Almagor, Staff Pataï et Asher Ayalon, ce sont des grands acteurs là-bas qui sont très connus. Et puis je voulais dire aussi une petite info. OSS 117 de Nicolas Bedos la sortira le 3 février 2021. Donc maintenant c'est sûr, la date est bien fixée. Voilà, donc avec Jean Dujardin, Pierre Ninet, Fatou Ndiaye. Alors il y a une première photo officielle qui est sortie déjà d'ailleurs, on peut la voir. Avec Jean Dujardin qui arbore le fameux sourire et la tenue habituelle de Hubert Bonisseur de la Basse, qui est au milieu d'un décor estival. Voilà, c'est OSS 117. C'est joyeux, c'est du champagne, c'est du plaisir, nous a dit Nicolas Debos. Bedos, pardon, pas Debos, Bedos.
Je savais que l'on ne pourrait se passer.
Alors, je vous dis au revoir, mes petits chéris, sur cette musique de publicité. La publicité, les cinémas sont rouverts. Allons tous au cinéma. Je vous souhaite une très, très bonne semaine. Et surtout, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
gros yeux, tu sais.